Radio Okapi.
Merci de rester à l'écoute de la radio de la paix. Voici votre journal du soir, une édition préparée avec rigueur, fiabilité et une information toujours vérifiée. Place au titre. Devant les Nations Unies, Judith Suminwa alerte. Les femmes congolaises continuent de souffrir et le monde doit agir. Un appel vibrant lancé au cœur de New York pour rappeler que derrière les résolutions et les discours, des milliers de femmes vivent encore l'agression, la peur et l'insécurité au quotidien. Mahagi sous tension extrême, l'Ituri bascule en mode stand-by, plus de 300 camions citernes à l'arrêt, chauffeurs à bout, quartier envahi, entre peur d'explosion, insécurité et colère des transporteurs, Mahagi vit au rythme d'un blocage aux allures de bombes à retardement. SMIG, le syndicat met la pression. En vite du journal, Jean-Benoît Ntando, président de l'Organisation des Travailleurs Unis du Congo, revient sur l'application obligatoire du salaire minimum interprofessionnel garanti. Il insiste sur l'entrée en vigueur du deuxième palier fixé à 21 500 francs congolais par jour et prévient qu'aucun employeur ne doit y échapper. C'est une obligation légale et sociale. À New York, la voix de la République démocratique du Congo s'est élevée haut et fort. La Première ministre Judith Suminwa Tuluka participe cette semaine à la célébration de la Journée internationale de la femme, couplée à la 70e session de la Commission de la condition de la femme, placée sous le thème « Droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles ». À la tribune des Nations Unies, la chef du gouvernement congolais n'a pas mâché ses mots, alors que le monde célèbre le droit des femmes, celle de la RDC continue de payer le prix d'une agression injuste, notamment dans l'est du pays. Un message fort lancé devant la communauté internationale. Et pour comprendre les enjeux et les réactions de cette prise de parole, on retrouve Alain Yorung.
Depuis l'agression menée par le Rwanda et soutenue par le groupe AFC M23, les femmes et les jeunes filles dans les zones touchées subissent des violences graves, des déplacements et une crise humanitaire qui affecte profondément leur vie et leur avenir, a affirmé la chef du gouvernement congolais. Judith Suminwa a rappelé par ailleurs que les conflits n'affectent pas les hommes et les femmes de la même manière. Les violences faites aux femmes ne doivent être ni invisibilisées ni banalisées. Elles doivent être reconnues et combattues avec détermination, s'est-elle exclamée. Saisissant l'occasion, elle a aussi épinglé plusieurs réalisations de la RDC en matière de défense des droits et de promotion de la femme. La participation des femmes dans les sphères décisionnelles est passée de 21% en 2021 à 32% en 2024, notamment avec un gouvernement dirigé pour la première fois par une première ministre, a-t-elle confié. Sur cette même lancée, elle a renseigné que la RDC s'est également engagée à renforcer l'autonomisation économique des femmes en soutenant l'entrepreneuriat et en facilitant leur accès aux opportunités économiques, notamment dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires.
Le Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme tire la sonnette d'alarme sur la situation des enfants nés de viol. Selon ces dernières données, au moins 887 cas de violences sexuelles touchant 1534 personnes en 2025 ont été documentés. De chiffres révélés hier lundi lors du lancement à Kinshasa d'une vaste campagne de sensibilisation consacrée à l'esclavage sexuel et à la prise en charge des enfants issus du viol. Et dans ce contexte déjà préoccupant, la ministre du Genre, Famille et Enfants, Micheline Ombaï-Kalama, rappelle que ces enfants portent le poids d'un crime dont ils ne sont pas les premières victimes et qu'ils nécessitent une attention et une protection accrue. Plus de détails avec vous, John Chibobwa.
Cette campagne vise à renforcer la mobilisation autour de la prévention des violences sexuelles, de la protection des victimes et des luttes contre l'impunité. Pour le directeur du BCNUDH en RDC, Patrick Vahar, l'esclavage sexuel ne doit pas être un outil de guerre.
Notre rapport 2025 révèle que les différents groupes armés font usage de l'esclavage sexuel. C'est des femmes innocentes. Les groupes armés, lors d'un affrontement, envahissent un village, prennent les femmes en otage en leur menaçant de si jamais elles expliquent ce qui leur est arrivé, eh bien, soit on va mettre fin à leur vie.
De son côté, la ministre du Genre, Famille et Enfants indique que l'esclavage sexuel ne devrait pas rester impuni. Micheline Kalama.
Aux survivances et aux survivants, je veux dire ceci. Du fond du cœur, pour n'être pas sœur, votre douleur ne sera plus ignorée. Votre dignité n'est pas un privilège, elle est un droit fondamental. Et la justice doit être au rendez-vous de votre espérance.
Le BCNUDH appelle ainsi les autorités à accélérer les poursuites judiciaires contre les auteurs des crimes, aux groupes armés à cesser les hostilités et à la communauté internationale à renforcer les soutiens financiers pour la prise en charge des victimes.
Selon un communiqué du Bureau conjoint des Nations Unies pour le droit de l'homme parvenu à notre rédaction, plusieurs groupes armés, notamment M23, CODECO, FDLR et Ouazalendo sont pointés du doigt comme principaux responsables de ces violences. Le document souligne également l'implication de certains éléments de forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise et des services de sécurité, aggravant davantage une situation déjà marquée par l'insécurité et les abus. Donner son sang pour sauver des vies. C'est le geste fort posé hier à Beni, chef-lieu provisoire du Nord Kivu, pour lancer le mois dédié à la promotion de droits des femmes. Dans une ambiance de mobilisation, une vingtaine de poches de sang ont été collectées, principalement auprès des femmes policières venues répondre à l'appel. Un acte citoyen salué par le centre de transfusion sanguine qui encourage la population à suivre cet élan de solidarité et à renforcer leurs réserves de sang de la ville. Le point complet avec Marc Marofimbo.
Si moi je vois une femme qui est morte à cause de manquer le sang, je ne sens pas bien dans mon cœur. Et c'est pour cela que moi j'ai donné le sang à ma volonté, parce que la vie c'est la femme.
Cette policière a été la première à s'aligner pour le don bénévole du sang lors du lancement officiel des activités du mois dédié à la promotion des droits de la femme. L'activité s'est tenue dans l'enceinte de la salle des sœurs orantes de Beni. La chef du bureau genre famille et enfants dans la région de Beni, à l'origine de cette mobilisation, indique que le sang reste un besoin crucial dans les structures sanitaires de la ville. Ruth Sabouni.
Deux fois, il y a des problèmes de maladie. Nous arrivons à l'hôpital avec nos enfants anémiques et surtout nos mamans. Nous qui donnons la vie, des fois, nous perdons cette vie à vouloir donner la vie. C'est pourquoi nous avons insisté à la couche, parce qu'au moins dans la salle, on avait plus de 300 et quelques femmes qui étaient présentes. Il a été nécessaire pour que nous puissions passer ces messages de donation volontaire de sang pour permettre encore à renforcer notre banque qui a toujours été au secours de tous les malades et toutes les malades qui arrivent à l'hôpital. Et à ne pas oublier que c'est cette banque qui couvre même toutes les zones périphériques qui nous entourent.
Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Nouvelle alerte dans ce journal. Cette fois, c'est le bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, OCHA, qui lance un sérieux signal d'inquiétude. Une faim sévère frappe plus de 85% des ménages dans plusieurs localités situées sur l'axe Mweso-Pinga, notamment à Rugarama et Kalembe, en plein cœur du Nord Kivu. Une crise nourrie par une combinaison explosive, conflits armés, chocs économiques, catastrophes naturelles et flambées de prix alimentaires. Un cocktail qui plonge des familles entières dans la survie quotidienne. Le point complet avec Grace Hamzati.
L'organisation tire la sonnette d'alarme sur l'ampleur de la crise et appelle à une mobilisation urgente afin d'éviter une aggravation de la situation alimentaire dans cette zone. Selon ces rapports, la majorité des ménages présentent une consommation alimentaire jugée pauvre, signe d'une difficulté à accéder régulièrement à une nourriture suffisante et diversifiée. À Rugarama, par exemple, ce taux atteint 100%, tandis qu'à Kalembe, il dépasse les 87%. Ces documents de OCHA soulignent également une vulnérabilité plus marquée chez certains groupes, notamment les personnes déplacées internes et les ménages retournés. Près de 95% des ménages déplacés ont une consommation alimentaire pauvre et 80% d'entre eux recourent déjà à des stratégies d'urgence pour survivre. Face à cette situation, les populations adoptent des moyens de survie de plus en plus extrêmes. Plusieurs ménages déclarent emprunter de la nourriture, envoyer certains membres des familles manger ailleurs ou encore vendre des biens domestiques. D'autres retirent leurs enfants de l'école, réduisent les dépenses de santé ou mendient pour pouvoir se nourrir.
Au Kassai oriental, le poumon vert de la capitale diamantifère bat au rythme des femmes. Les légumes qui remplissent les marmites de Mbujimaï viennent pour la plupart des localités voisines. Et derrière cet approvisionnement vital, ce sont elles, les femmes, qui tiennent la chaîne debout. Chaque jour, elles avalent des kilomètres chargés de marchandises sur la tête ou accrochés à l'arrière des motocyclettes, défiant fatigue, poussière et obstacles. Malgré les conditions difficiles, elles avancent, déterminées à nourrir leur famille et à faire vivre l'économie locale. Un courage qui force le respect. Esther Dalafina est allée à la rencontre de ces femmes qui portent littéralement l'alimentation de la ville sur leurs épaules. Suivons ce reportage.
Marché Bakwa Dianga, Céline Bilonda, vendeuse de légumes, raconte l'origine de sa marchandise.
Je me réveille chaque jour à 4h du matin. Je me rends en Kaboué. J'achète différents légumes. Je cherche un vélo en transport jusqu'à Tchitengue. C'est le travail que je fais chaque jour. À travers ce travail, je ne gagne pas beaucoup, mais je fais scolariser mes enfants. J'achète la nourriture, on mange et la galage.
Comme elle, de nombreuses autres femmes se rendent à Kaboué ou à Tchitengue pour ramener des produits frais indispensables à la ville. Mais derrière ce labeur se cache un calvaire. Les bénéfices tirés de la vente sont jugés insignifiants par ces commerçantes. Malgré cela, elles parviennent à scolariser leurs enfants, comme le témoigne Alphonsine Ngalula. Pour compenser, elles développent certaines stratégies de survie, diversifier leurs produits, réduire leurs marges ou multiplier les voyages. L'amour du travail et la détermination font de ces femmes vendeuses de légumes des véritables pionnières de l'humanité, portant sur leurs épaules non seulement des panier de légumes, mais aussi l'espoir et la résilience de toute une communauté. Esther Ndalafina Mbujimaï, Radio Kapi.
À Mahagui, en Ituri, l'atmosphère se charge des tensions. Plus de 300 camions-citernes remplis de produits pétroliers sont cloués au sol. Les chauffeurs refusent désormais de prendre la route, agacés par l'insécurité et les tracasseries qu'ils affirment subir entre Bounia et Kisangani. Résultat, ces géants de la route s'entassent partout, dans des entrepôts, le long des axes routiers, dans les avenues et même au cœur de certains quartiers résidentiels. Une présence massive qui inquiète la population entre risque d'incendie et blocage. La peur gagne du terrain. Le point complet avec Jean-Claude Lokidile.
Ces véhicules transportent du carburant, un produit hautement inflammable. Pourtant, dans cette zone, aucun camion anti-incendie n'est disponible pour intervenir en cas d'accident. Et pour survivre pendant cette immobilisation, certains camionneurs préparent leur nourriture sous les citernes à l'aide de braises. Autre problème, l'absence d'installations sanitaires pour ces centaines de conducteurs. Faute de toilettes, plusieurs sont contraints de se soulager dans la nature, parfois en plein air, ce qui pose également un problème d'hygiène publique. Mais ce n'est pas tout. Des habitants alertent aussi sur la présence de jeunes filles, parfois mineures, attirées par l'argent des camionneurs. Une situation qui fait craindre des cas de grossesse précoce et la propagation de maladies. Face à ces risques, certains membres de la communauté lancent un appel aux autorités. Témoignage d'un habitant.
Regardez, plus de 300 chauffeurs. Alors, il n'y a pas d'hôtel qui peut les héberger. D'autres dorment en dessous du véhicule, d'autres dorment dans leur véhicule. Et ils préparent aussi en dessous de ce véhicule. Une fois le feu prend un véhicule, alors c'est fini pour nous. Ce qui est grave parce que il n'y a pas d'incendie. Il n'y a pas aussi des systèmes anti-incendie, même à l'entrepôt de la DGDN, il n'y en a pas.
Selon nos informations, une délégation des autorités provinciales est attendue ce mardi dans la zone pour tenter de trouver une issue à cette situation. Bounia, Jean-Claude Louki, il est Radio Okapi.
À Kinshasa, la Gombe plonge chaque jour dans le noir. Depuis plusieurs mois, la commune la plus stratégique du pays, là où siègent institutions, ministères et grandes entreprises, subit des coupures quotidiennes d'électricité, des interruptions qui commencent parfois dès 7h du matin et s'étirent jusqu'à minuit, voire 1h du matin. Les zones touchées sont parmi les plus fréquentées, la gare centrale, le galerie présidentiel, l'avenue du commerce et le rond-point Forestcom. Et face à ce calvaire, habitants, opérateurs économiques et marchands n'en peuvent plus. Ils affirment payer régulièrement leurs factures à la SNEL, mais reçoivent en retour des heures interminables sans courant. Résultat, ils se rabattent sur le groupe électrogène qui coûte cher en carburant, réduisent leurs revenus et plombent l'activité économique. Un opérateur économique excédé témoigne au micro de Lévin Mbwinga.
La ville, entre parenthèses, Gombe, devient de plus en plus invivable. faute d'électricité. Parce qu'en tout cas, s'il s'agit de bien parler, personne ne pouvait s'imaginer qu'à Gombe, on pouvait faire 2 semaines d'affilée sans avoir d'électricité. Regarde par exemple la galerie présidentielle, là où il y a tellement de bureaux, il y a des institutions de l'État, il y a des boutiques d'habillement qui aident la population à bien porter tout ce qui est comme accoutrement. Tout le monde est dans le noir. On ne sait pas travailler parce que la galerie en soi, c'est tout un quartier qui égorge beaucoup de monde. Il y a les gens qui viennent là-bas professionnellement, il y a les gens qui vivent dans les enceintes de la galerie présidentielle. C'est vraiment un cas qui devient amer parce qu'il n'y a pas d'amélioration. Tout le monde se lamente, on ne sait pas là où ça nous amène. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est le gouvernement qui va nous aider à pouvoir arranger cette histoire parce qu'en tout cas, nous en avons assez, on souffre.
Contacté par notre rédaction, la SNEL reconnaît le désagrément. Selon les directeurs des distributions de Kinshasa, Zéphirin Boukassa, les pannes seraient dues à des câbles endommagés par l'entreprise Sonadex en plein travaux d'installation des lampadaires sur l'avenue Boukassa. Il assure que les câbles sont en cours de remplacement et que le courant devrait revenir à la normale très bientôt. À Fizi, au sud Kivu, les chefs traditionnels veulent retisser les liens brisés. L'Association nationale des chefs traditionnels du territoire prône aujourd'hui le vivre ensemble entre les différentes communautés dans une zone longtemps secouée par des tensions interethniques. Le message a été lancé le 8 mars à la clôture d'une réunion organisée au chef-lieu du territoire sous la houlette de l'administrateur de Fizi. Objectif, cimenter une cohabitation pacifique, mettre fin aux divisions et tourner la page des conflits qui ont marqué la région. Parmi les recommandations phares, encourager le mariage intercommunautaire, un geste symbolique mais puissant pour rapprocher les populations. L'administrateur du territoire, Sami Badibonga, dit espérer que les assises tenues du 7 au 8 mars à Fizi centre ouvriront enfin la voie à une paix durable et une véritable réconciliation.
Cette rencontre était axée essentiellement sur une thématique intitulée l'apport des chefs coutumiers dans la consolidation de la paix et la réconciliation intercommunautaire, gage de la cohabitation pacifique en cette période d'agression de notre territoire. Un monument de paix a été inauguré. Les 4 chefs de secteur, le membre des comités locaux de sécurité, les 18 chefs de groupement et les chefs des 171 villages, tous étaient présents. J'ai appelé les coutumiers à être des artisans de la paix dans leurs entités respectives. Les différentes communautés qui vivent à Fizi, notamment le Reka, le Luba, le Nindu, le Banyamurenge, le Bembe, le Fuliru, le Bash, le Bajoba, doivent vivre ensemble et privilégier la paix comme l'a toujours souhaité le président de la République, chef de l'État.
Actualité internationale.
En Côte d'Ivoire, Amnesty International appelle à la libération de plusieurs dizaines de personnes arrêtées depuis la présidentielle du 25 octobre 2025. Pendant la campagne, les autorités avaient interdit toute manifestation et 1658 personnes avaient été interpellées, notamment pour troubles à l'ordre public lors des rassemblements organisés par l'opposition. Dans un communiqué publié ce mardi, l'ONG démontre que les procès en première instance, comme en appel, se déroulent dans le respect strict de droit de la défense. Amnesty International rappelle que nombre de détenus attendent toujours une décision judiciaire. La semaine dernière, le porte-parole du gouvernement Amadou Koulibaly avait assuré que le pays restait engagé dans la construction d'un état de droit, affirmant que les personnes interpellées avaient bel et bien commis de délits.
L'invité.
Quelques semaines après le Conseil national du travail extraordinaire, le bon syndical remet la pression. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIG, doit désormais s'appliquer à tous les employeurs sans exception. Invité de Radio Okapi, le président de l'Organisation des travailleurs unis du Congo, Jean-Benoît Ntando, insiste sur ce point. Pour lui, l'entrée en vigueur du deuxième palier du SMIG fixé à 21 500 francs congolais par jour est un pas essentiel pour améliorer le le panier de la ménagère et redonner un souffle au pouvoir d'achat. Jean-Benoît Ntando au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Bonjour Jean-Benoît Ntando.
Bonjour messieurs les journalistes.
Depuis la tenue de la 37e session du Conseil national du travail extraordinaire, l'application du deuxième palier du salaire minimum interprofessionnel garanti SMIG fait débat. Quelle est la position du syndicat OTUC à ce sujet?
Il n'y a pas polémique. Il y a un décret de madame la première ministre qui a été pris en 2025. Dans ce décret, nous avons dit, il y aura d'abord le SMIG qui va être payé à 14 500 qui va commencer demain en décembre. Ça, c'était pour ajuster le SMIG que nous avons pris en 2017. On a ajusté parce que le SMIG en 2017 a été fixé à 7.075, équivalait à 5 dollars. Et malheureusement, le dollar a évolué alors que les agents étaient toujours payé à 7.075. Qui est injuste? Parce qu'il y a quelque chose que nous avons dit à ces conseils-là, qui devait avoir une commission de suivi des SMIC. Et la commission devait être opérationnelle chaque fin d'année pour voir comment on peut ajuster. En tripartite, nous sommes arrivés à dégager et à ajuster d'abord les 7.075 à 14 500 et qui devait être payé à la fin du mois de décembre 2025. C'est ça le décret. Et puis, en janvier, le SMIC est fixé à 21 500 que tout employeur doit appliquer. Vous avez un domestique, vous devez lui payer 21 500 comme le taux journalier et vous allez faire les calculs.
Vous ne redoutez pas que l'application forcée de ces SMIG pousse certains patrons d'entreprise à envoyer certains agents en congé technique?
Non, moi je ne vois pas le congé technique. Ici nous sommes en face d'un décret. Et le décret est pris par une autorité, pas la moindre. C'est la première ministre, le chef du gouvernement. Et nous avons été en tripartite. La tripartite, il y a d'un côté les employeurs et de l'autre côté, il y a les employeurs et nous les syndicats. Et puis il y a le gouvernement. Nous avons dégagé le 21 500. Et cela a été pris par un décret et cela a été coulé au niveau du journal officiel et il s'impose à tout le monde. Il n'y a pas de débat et ça doit s'appliquer comme tel.
Que répondez-vous à ceux qui proposent l'application échelonnée du deuxième palier du SMIG?
Ça aurait été mieux si cette proposition a été développée au Conseil national ordinaire. Si ça a été développé comme tel, ça ne poserait pas un problème. Maintenant, aujourd'hui, nous avons un décret, monsieur le journaliste. Vous savez, lorsque une disposition, un texte est coulé dans un journal officiel, ça devient opposable à tous. Il faut que les employeurs appliquent les dispositifs du décret de madame la première ministre. Si vous ne le faites pas, il y a un problème. Parce qu'ils sont signataires, il y a des PV, ils sont signataires de ces accords-là. Ils sont signataires de ces... Parce que lorsque la première ministre a pris les décrets, mais il s'est référé à quoi? Il s'est référé aux procès-verbaux que nous avons ensemble signés lors du Conseil national du travail. C'est sur base de ça que la première ministre a pris son décret. Et aujourd'hui, il y a des entreprises qui payent les 21 500. Vous allez dans les secteurs des mines, on paye. Vous allez dans les secteurs des communications, on paye. Et pourquoi on ne doit pas payer? Pourquoi on voudrait généraliser tous les cas? Non, on ne peut pas généraliser. Dans quel pays où on peut mettre en cause un décret? Alors, ceux qui sont incapables de le faire, qui disent qu'ils sont incapables, et les mécanismes sont connus lorsqu'une entreprise est incapable de payer ce que la loi dit. C'est très important parce que vous savez, lorsqu'on avait lancé le Conseil national du travail, il faudrait laisser l'inspection du travail faire son travail. Il doit aller dans les entreprises vérifier l'application du décret.
Alors si on vous demandait d'adresser un petit message au gouvernement qui est le gestionnaire du secteur, que diriez-vous?
Je voudrais dire au gouvernement de veiller sur l'application des SMIC. Comment va-t-il veiller? C'est par le biais de l'inspection générale du travail. Et par ricochet, je voudrais demander aussi à tous les travailleurs congolais. Alors je demande à tous ces syndicats-là de donner l'ordre à leurs délégués syndicaux de veiller dans les entreprises que l'application du SMIG ne souffre pas.
Jean Bosco Ntando, nous vous disons merci.
Vous venez d'entendre Jean-Benoît Ntando, président de l'Organisation des Travailleurs Unis du Congo, appelle avec force le SMIG doit s'appliquer à tous. Une interview à réécouter en intégralité sur Radio Capi et en ligne. Fin du journal des 18h présenté par Gisèle Cage. Merci d'avoir suivi cette édition préparée comme toujours avec le souci de vous offrir une information crédible, équilibrée et vérifiée. Pour plus de détails, des analyses, des vidéos et des contenus exclusifs, retrouvez Radio Capi sur toutes nos plateformes numériques. Bonne soirée chez vous.